Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours merveilleux d'avoir des baptêmes parce que c'est comme quand on marque le progrès de l'évangile dans les cœurs, et c'est très encourageant de voir ce que le Seigneur fait dans les vies, de les accompagner. Et voilà, on est très encouragé par Katia et puis Alexandre. Alors, après 6 semaines de pause, on va revenir sur le livre de la Genèse. Et on est arrêté au chapitre 24. Et je vous propose de lire ce chapitre. On ne va pas le lire en entier. C'est probablement l'un des plus longs du livre de la Genèse. Mais on va lire du verset 1er jusqu'au verset 27. On avait commencé cette série sur les origines. Et maintenant, on a déjà commencé cette série sur Abraham, et on voudrait maintenant comprendre que Abraham a été béni pour être une bénédiction pour les autres. Et cette bénédiction, elle s'est transmise à Isaac. Il a été béni pour bénir les autres. Et puis Jacob a été béni pour bénir les autres. Et jusqu'à Jésus-Christ, qui a été béni par-dessus tout, pour nous bénir. Et nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ pour bénir les autres. Et c'est pour ça que cette deuxième partie du livre de la Genèse s'intitule « Béni pour bénir ». Et c'est ce qu'on voit dans le premier verset ici en Genèse, chapitre 24 et verset 1er. « Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toute chose. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. » Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, et elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles d'or. Et il dit, « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Magnifique texte, magnifique épisode pour les amoureux. Ce qui devrait caractériser la vie du chrétien, c'est sans aucun doute la recherche de la volonté de Dieu et de la force pour l'accomplir. Dieu a révolutionné notre raison de vivre. Alors on se pose la question, mais maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Dois-je faire telle ou telle activité ? Être disciple de Jésus-Christ transforme non seulement nos pensées, nos émotions, mais également transforme notre volonté. Si Christ a véritablement payé le prix de notre péché sur la croix, s'il a reçu la colère de Dieu pour nos fautes, nous ne pouvons plus vivre comme auparavant. Comme si nous l'ignorions. Mais nous devons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Voilà ce que ça signifie d'être un disciple. Et c'est ce que nous avons déclaré par le baptême, c'est ce que viennent de déclarer Katia et Alexandre. Ils ont montré dans leur baptême, au fond, on a perdu notre vie avec Christ, en Christ. Et puis maintenant, nous nous sommes abandonnés avec joie à sa volonté. Ainsi, la volonté de Dieu devient la préoccupation constante du chrétien. Dans son choix d'un conjoint, et plusieurs réfléchissent à cela, mais aussi pour le choix d'un travail, pour le choix d'études, pour le choix d'un lieu de résidence, pour le choix d'une église. On veut faire la volonté de Dieu. Si mes enfants me disaient, peut-être ça viendra un jour, « Papa, cette semaine, nous ferons tout ce que tu penses être le meilleur pour nous. » Qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je ferais tout pour leur rendre leur semaine la plus misérable qui soit ? Ou est-ce que je ferais tout au contraire pour honorer leur confiance en les orientant vers ce qu'il y a de meilleur pour eux ? Mais moi, je suis pas un père parfait. Vous avez juste à leur demander si vous voulez vous en convaincre. Je ne sais pas même ce qui est le meilleur pour eux. Par contre, Dieu, lui, il est le Père parfait. Lui, il sait exactement ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants. Alors, faisons-lui confiance. Recherchons sa volonté et entrons dans ses plans de tout notre cœur pour accomplir avec joie sa volonté. Alors la question c'est comment Dieu nous fait connaître sa volonté. Ce matin, je voudrais vous évoquer trois pensées tirées de ce passage. Tout d'abord, il nous donne une trajectoire. On verra ensuite qu'il marche devant nous et puis enfin il nous révèle une plus grande histoire que la nôtre, la sienne. Voyons d'abord, il nous montre, il nous donne une trajectoire. C'est John Piper qui évoque cette histoire de trajectoire. Mais cette idée d'avoir une direction pour nos vies. Dieu ne nous dit pas « voici le point, voici la personne ». Il n'y avait pas un verset dans la Bible qui disait « Vincent, tu épouseras Chou ». Non. Il n'y a pas ce verset. Mais il y a des directions. Et ces directions me permettent d'épouser Anne-Sophie. M'ont permis d'épouser Anne-Sophie. Et donc, dans ce passage, il y a un grand danger pour ceux qui sont à la recherche de la volonté de Dieu. Et le grand danger, c'est d'aller s'asseoir au bord d'un puits et puis d'attendre qu'une fine fille vienne puiser de l'eau et lui poser la question dans l'espoir qu'elle prononce la bonne réponse afin de l'épouser. Vous pouvez transposer vos idées. Si je lui ai écrit un mot, qu'elle me répond. Ou si un jour, on se pointe à l'église et on est habillé pareil. Ce genre de choses sont très dangereuses. La plupart du temps, lorsqu'on fait une pareille chose, on se plante. Parce que dans notre passage, c'est pas le point essentiel. Dans notre passage, c'est juste anecdotique. Le point essentiel dans cette histoire, c'est tout à fait autre chose. Quand on s'arrête facilement sur la scène du puits, on aurait tendance à penser que la volonté de Dieu se manifeste dans un concours de circonstances. On s'est croisé au supermarché. Là, c'est une preuve. Non, c'est un signe quand même. On s'est retrouvé à la caisse. Alors là, oui, Dieu veut vraiment que nos vies comme ça. Mais combien de fois vous avez croisé une grand-mère au supermarché, vous l'avez pas épousée pour autant. Donc les circonstances ne sont pas bonnes pour nous guider, ne sont pas suffisantes pour nous guider. Le point clé qui est révélé dans le début du passage. Pourquoi Abraham demande-t-il à son serviteur de chercher une femme pour son fils? Pourquoi une femme de son pays d'origine? Pourquoi ne pas y conduire Isaac? Ce sont ces choses qu'il nous faut méditer pour comprendre comment Abraham a discerné la volonté de Dieu. Et c'est cela. Comprendre la trajectoire ou la direction de Dieu, c'est-à-dire le plan global de Dieu. Qu'est-ce qui pousse Abraham à faire une telle demande? Qu'est-ce qui le pousse à faire prononcer un vœu? On voit le côté solennel du vœu, il doit mettre sa main sous sa cuisse et promettre à son maître, je vais faire tout ce que tu m'as demandé de faire. Trois pistes, trois choses qui ont permis à Abraham de faire ce vœu à son serviteur. Tout d'abord, Isaac doit se marier. Ça, c'est la première des choses. Isaac doit se marier. Tous les pères ne peuvent pas en dire autant pour chacun de leurs enfants. Il est fort possible que certains peuvent rester célibataires. Mais pas Isaac. Isaac doit se marier parce que Isaac doit avoir des enfants. Parce que Dieu a promis à Abraham une descendance par Isaac et que Isaac devait avoir une descendance nombreuse comme le ciel, les étoiles du ciel. Et ça, on le voit à plusieurs reprises et Abraham le sait. Regardez chapitre 17, toujours dans la Genèse, verset 19. Dieu dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Isaac doit avoir une postérité. Et chapitre 21, verset 12, il dit « Mais Dieu dit à Abraham que cela, c'est au moment où Ismaël est chassé avec sa mère. Il dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et puis au chapitre 22, après le sacrifice d'Isaac, il est dit, verset 16, « Je le jure par moi-même, c'est l'Éternel qui parle, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Mais Isaac, à ce moment-là, il n'a pas d'enfant. Non seulement il n'a pas d'enfant, mais il a 40 ans. Regardez chapitre 25, verset 20. Il est dit, « Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. » Ça peut vous donner de l'espérance, ceux qui sont dans la trentaine et qui ne sont pas encore mariés. Peut-être votre père attend que vous ayez la quarantaine pour vous présenter une jeune fille. Très belle, en l'occurrence. Donc, Abraham sait qu'Isaac doit un jour se marier et doit avoir des enfants qui se marieront et auront des enfants. Ça, c'est la première direction qu'Abraham a. Deuxième direction, sa femme ne doit pas être une cananéenne. Vous avez remarqué ça, verset 3, et il dit « De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des cananéens ou au milieu desquelles j'habite. » Imaginez la situation, Isaac, c'est quand même un bon parti, je ne voudrais pas dire, mais il est richissime. Il est héritier de toute la fortune de son père. Il nous a dit que Sarah, elle était tellement belle. On peut imaginer qu'Isaac ressemble un peu à sa mère, qu'il est plutôt beau. Et il est plutôt sympathique quand on lit quelques verset qui parle d'Isaac, on voit un garçon plutôt paisible. Alors certainement, les filles ne devaient pas manquer. Oui, mais à chaque fois qu'il présente une fille de la région à son père, Abraham lui dit, non, mon fils, pas une fille des Cananéens. Pas une fille de cette région. Pas une fille de cette région. Abraham sait que le peuple cananéen est idolâtre, et il ne veut pas que son fils s'éloigne de l'Éternel. Mais aussi, il sait que ce peuple cananéen, ce peuple inique, l'iniquité de ce peuple va aller en augmentant encore jusqu'au jour où Dieu va décider de frapper ce peuple. Alors, vous comprenez la chose, c'est s'il prend une femme parmi les filles cananéens, un jour, Isaac et les descendants d'Isaac vont devoir entrer en guerre avec la belle famille. Il ne faut pas ça. Dieu veut préserver ça. Et Abraham, il sait que le peuple cananéen va être jugé dans des années à venir. Et donc, il ne veut pas cela pour son fils. Et puis enfin, troisième direction, tu ne mèneras pas mon fils. Il dit, je veux une fille de la famille, quoi, de Mésopotamie, mais je veux surtout pas que mon fils aille là-bas. On peut imaginer, et c'est ce que d'ailleurs la pensée du serviteur hein, au verset 5, c'est la suivante, il dit, bon, admettons, je vais là-bas. Je trouve une fille parmi la famille de Mésopotamie. Je lui dis, à 8000 kilomètres, ou 800 kilomètres, pardon, il y a un jeune homme formidable, il aimerait t'épouser. Il ne le sait pas encore, mais il va aimer. Et si la fille dit, écoute, ok, je veux bien, mais moi, je me plais ici, et je n'ai pas l'intention de déménager dans un pays étranger où je connais personne. Si vraiment il veut m'épouser, qu'il vienne me chercher et qu'il vienne s'installer ici. Et c'est ça tout le drame. Et Abraham, il dit, alors ça n'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. Et il dit, hein, regardez ça, verset 6, garde-toi d'y mener mon fils. Et il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays, Canaan, ce pays à ta postérité. Et lui-même, il enverra son ange devant toi pour qu'elle accepte. Et c'est de là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors aucun problème, tu seras dégagé de ton serment que tu vas me faire. Voyez un peu les pistes. Dieu avait dit au sujet d'Abraham, c'est ton pays. Tu en prends possession. Isaac doit prendre possession de ce pays. C'est son pays. Quitter le pays, partir pour trouver une femme ailleurs, c'était délaisser la promesse. C'était abandonner la promesse de Dieu. Et pour Abraham, ça, c'était pas possible. Dans la recherche de la volonté de Dieu, nous devons discerner la trajectoire. Ici, ce sont des trajectoires spécifiques pour Abraham et pour Isaac. À nous de trouver dans les Écritures les trajectoires spécifiques pour nos vies. Et c'est cela toute la chose qui rend la chose complexe. Et la trajectoire pour ma vie, je la trouve dans la parole de Dieu. Ça implique que je doive la méditer. Non seulement connaître les faits, mais aussi interroger le texte. Et cette méditation, elle doit se faire dans la prière. Vous savez, on a un ennemi, le diable. Il est le prince de ce monde, il est Satan, l'adversaire. Et il prêche constamment ses idées. Il prêche constamment sa volonté. Dans tous les médias de ce monde, il prêche sa volonté. Parmi vos collègues qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il prêche sa volonté. Et il influence notre propre volonté de toutes les manières qu'il peut. Et c'est pour cela qu'on a besoin, pour comprendre la volonté de Dieu, de faire un effort particulier en cherchant dans sa parole les trajectoires pour nos vies. Cette semaine, il y a un frère qui est venu me voir et m'a partagé qu'il connaissait de gros problèmes. Il savait que le monde et le diable préconisent dans sa situation la colère, la vengeance, l'abandon. Il n'arrivait pas à s'endormir, agité dans ses pensées. Il s'est levé au milieu de la nuit et puis il a pris la parole. Et puis il a commencé à interroger la parole. Et puis à la lire et à la lire et à la méditer. Et puis à demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que le monde me préconise, mais ce que toi, ta parole préconise. Éclaire mon cœur, éclaire ma pensée. Donne-moi la force pour que je puisse faire ta volonté. Et il sait maintenant que Dieu va le conduire. Il a retrouvé la paix et il s'est endormi comme un bébé. Au matin, il a commencé à agir selon la volonté que Dieu lui a révélée. Il nous faut chercher dans sa parole, sa volonté. Lisez-la encore. Méditez-la. Scrutez. Réfléchissez à votre vie. Réfléchissez aux trajectoires que Dieu donne à vos vies. Quelqu'un qui cherche, un chrétien, un disciple de Christ qui cherche une femme, une compagne. La Bible dit, par exemple, une trajectoire très, très, très claire, commune à tous les chrétiens. Elle doit être chrétienne. Il faut que tu te maries dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Une autre trajectoire, peut-être. Tu dois vivre pour sa gloire. Est-ce que lorsque tu es avec lui ou lorsque tu es avec elle, tu t'approches de Dieu ou tu t'en éloignes? Est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est un encouragement pour marcher avec Dieu, pour glorifier Dieu? Ou est-ce que tu t'en éloignes? Concernant un travail, est-ce que je peux faire ce travail honnêtement? C'est une trajectoire. Est-ce que ce travail va me permettre d'assumer mes responsabilités de témoin de Jésus-Christ, de père de famille, d'époux, d'épouse? Voilà les questions, voilà les trajectoires. Mais ça, c'est quelques-unes qui sont certainement communes à tous. Mais en cherchant dans les Écritures, en scrutant les Écritures, en regardant ce que Dieu a déjà fait dans vos vies, vous allez voir la trajectoire que Dieu donne à vos vies. Et vous pourrez discerner quelle est sa volonté. La deuxième pensée, c'est qu'il marche devant nous. On voit ça merveilleusement ici au verset 7. Il dit, lui-même, Dieu lui-même enverra son ange devant toi. Vous savez, on est jamais certain avec une précision mathématique d'avoir clairement compris quelle est la volonté de Dieu. Mais au verset 8, Abraham a cette confiance que de toute façon, l'ange de l'Éternel va précéder et conduire son serviteur. Et c'est ce que le texte dit, verset 27, quand il s'incline et adore l'Éternel, il dit « Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » C'est l'Éternel qui m'a conduit. Au verset 48, il dit, quand il fait récit de tout cet épisode à Laban, le frère de Rebecca, il dit « Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. » Et puis verset 50, même Laban et Bethuel, ils sont obligés de reconnaître la main de Dieu. Ils disent « C'est de l'Éternel que la chose vient. » Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Ils reconnaissent, c'est clairement, c'est Dieu qui a conduit la chose comme ça. On ne peut pas s'y opposer. Clairement, Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, comme il est appelé ici dans ce passage, a devancé Abraham et son serviteur dans cette histoire. Le Seigneur a répondu à la prière du serviteur. Les détails sont là seulement pour révéler que Dieu a conduit. Mais croyons que Dieu va nous conduire. On le sait avant lui. Tout le suspense est tué au verset 15. Dès que Rebecca apparaît dans la scène, tout de suite c'est dit, c'est bon, c'est déjà la fille de Bethuel, fille de Laban, c'est la famille d'Abraham, c'est celle-là, quoi. Et en plus elle est très belle, et puis on sait, bon, c'est bon. Le serviteur, il regarde ça, il dit, waouh, elle est belle. Ouais. Mais il l'interroge, et puis c'est là que lui, il apprend la chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait connaître, il tue le suspense? Pourquoi est-ce qu'il nous fait connaître l'identité de Rebecca? Je crois que c'est simplement pour qu'on sache, c'est Dieu. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui conduit cette femme. Pour le serviteur, il va d'émerveillement en émerveillement. Il n'a pas encore dit amen à sa prière qu'apparaît Rebecca. Elle est très belle, elle est vierge. Ça pourrait être une femme mariée avec 6 enfants, mais non. Il fait le test du laisse-moi boire de ta cruche, et puis elle accepte, et puis elle a la bonne réponse. Elle puise pour les chameaux. Là, il est en train de regarder. Il dit, wow, c'est incroyable. On dirait que c'est Dieu qui fait tout ça. Et puis au verset 21-23, il dit, de qui es-tu la fille? Y a-t-il de la place chez vous pour passer la nuit? Elle lui fait connaître son identité. Je suis de la famille d'Abraham. Et il y a de la place, et il y a même du fourrage en abondance. Paf! Dans le mille. Verset 26, il est obligé de s'incliner et d'adorer. Et chaque fois que l'on reconnaît la bonne main de l'Éternel, on doit avoir la même réaction, s'incliner et adorer Dieu. J'ai remarqué que les choses ne se passent pas toujours comme je l'avais imaginé. Mais aussi, j'ai remarqué que malgré moi, Dieu a accompli sa volonté. Malgré mes pensées, malgré mes actions, Dieu a quand même dirigé parfaitement ma vie. Alors soyons attentifs aux trajectoires et avançons avec confiance et prière. Quand on comprend que Dieu conduit nos vies, alors on le reconnaît dans toutes nos voies et puis on adore. On est poussé à l'adorer. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu conduira votre marche. Et puis, il nous révèle une plus grande histoire. Vous savez, on comprend difficilement la volonté de Dieu lorsqu'on perd de vue la grande histoire de Dieu. C'est comme si on est dans le marche dans le brouillard parce qu'on voit juste notre nombril, on voit juste nos petites affaires, on voit juste nos petites vies et on perd de vue ce que Dieu est en train d'accomplir et de faire. L'univers ne tourne pas autour de nous. L'univers tourne autour de Dieu. Il tourne autour de Dieu lui-même et de son désir d'avoir une épouse pour son Fils, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas la finalité, mais lui, il est la finalité. Et notre histoire, elle doit s'inscrire dans la grande histoire, dans celle de Dieu. La grande histoire de Dieu, elle est racontée aussi dans les évangiles, mais ici également. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume de Dieu est semblable à des noces, à un roi qui fit des noces pour son fils. Et Isaac ici, il préfigure Christ, le divin époux, qui a été offert en sacrifice. Chapitre 22. Rebecca, elle représente l'Église, l'épouse qui aime Christ sans l'avoir vu. Car elle a cru au témoignage rendu par le serviteur qui représente le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle et qui emporte avec lui les dons de l'époux. Ce n'est pas simplement l'histoire d'Isaac et de Rebecca qui nous est racontée ici. On ne se sent pas vraiment concerné par les amours d'un couple qui s'est formé il y a 4000 ans. Mais on est concerné par la grande histoire, celle de Dieu. On en fait partie. On est incorporé dans cette histoire. Elle impacte notre vie aujourd'hui. Dieu a envoyé dans ce monde Jésus qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il nous conduit à lui lorsqu'on reconnaît qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Il veut que nous profitions de sa gloire, de sa bénédiction, pour être une source de bénédiction pour d'autres. Et il le fait par amour. Et vous savez, la grande histoire de Dieu, l'Évangile, révèle le caractère de Dieu. Et la connaissance de Dieu nous révèle sa volonté. Je m'explique. Imaginez, ma voisine me demande... Est-ce que tu peux préparer, j'ai une semaine de vacances là, je voudrais passer des super vacances. Je n'ai pas le temps de préparer tout ça. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Et moi je dis, j'ai pas le temps, je vais demander à mon église. Et je me tourne vers vous et je vous dis, écoutez, je voudrais que vous prépariez les plus belles vacances qui soient pour ma voisine. Ok, merci. Et vous allez me dire, non, pars pas si vite. Et qui c'est ta voisine? Et quel âge elle a? Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle a des enfants? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Vous allez avoir besoin de la connaître pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir comprendre sa volonté. Vous avez besoin de connaître son caractère pour connaître sa volonté. Comprenez la chose? Et pour nous, c'est pareil. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, accomplir le dessein de Dieu, on a besoin de comprendre qui est Dieu, quel est son caractère, comment est-ce qu'il est. Nous, on veut faire la volonté de Dieu, on veut connaître sa volonté, mais lui, il veut par-dessus tout que nous le connaissions, lui. Et quand on connaît ce qu'il a fait, quand on connaît son amour pour nous, sa puissance, sa grâce, sa sainteté, sa sagesse infinie, on comprend son évangile. Quand on comprend son dessein, alors on sait aussi comment accomplir sa volonté. Quand on le connaît, on sait ce qu'il aime et comment il est, et on sait ce qu'il veut que nous fassions. Et ça, je pense, c'est la chose la plus importante. La plus importante pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, c'est de comprendre Dieu lui-même et comment il nous s'est révélé à nous au travers de son évangile. Je sais que cette question de la volonté de Dieu, elle est dans tous les cœurs. Tous, on s'interroge, quel est le pas suivant? Comment est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois choisir? L'épouse, le travail, le lieu de résidence, l'église. On a tous des multitudes de choix à faire. Et on est conscient que on doit faire la volonté de Dieu. Alors, cherchez les trajectoires dans la parole de Dieu. Cherchez ce que Dieu est en train d'accomplir dans son grand plan. Essayez de comprendre ses trajectoires, ce qu'il a commencé à faire dans votre vie. Essayez de comprendre que Dieu marche devant vous. Vous pouvez être assuré. Vous pouvez être assuré que Dieu marche devant vous. Il va conduire vos pas. Vous n'avez pas à craindre. Et puis, cherchez à le connaître lui, plus que tout autre. Et à l'aimer lui, pour accomplir sa volonté. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui fait sa volonté, mais il recherche la volonté de Dieu, pas simplement pour ne pas commettre d'erreur, mais bien plutôt parce qu'il veut plaire et honorer celui qui l'a tellement aimé. Dieu vous donne les trajectoires pour que l'on discerne sa volonté. Il marche devant nous pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et puis, il nous révèle son histoire pour que nous le connaissions et connaissions sa volonté. Alors ne craignez pas, mais faites-lui confiance, cherchez-le, interrogez-le, reposez sur vous sur lui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à discerner sa volonté.